Πάπου Παδί και Ζωνή. Και Ζωνή δερμάτινη. Η μέση σου, Ζώνη. Δερματιά. Τα βυζιά σου, Ζώνη. Και οι βυζάρες σου. Γεια σου, Λένα. Γεια σου, κούκλα είσαι. Και με τρελαίνεις, με τρέλαμες. Είμαι τρελή για σένα. Τρέλα, όλοι.
Après m'être replongée dans la lettre qui raconte mon voyage à Athènes en 2019, j'ai été fouinée sur le compte Instagram de Nota, l'amie d'amie d'amie qui m'avait hébergée les premières nuits. Je suis tombée sur une vidéo d'elle lisant ce poème debout devant de petites vagues. Même si la légende du poste est en grec, je comprends que c'est un poème qu'elle a écrit dans un recueil qu'elle tient dans les mains. Je fais écouter le son de la vidéo à Google Translate pour savoir ce qu'elle dit. Des mots s'écrivent par secousses au fur et à mesure que Nota lit. Même si je sais que la traduction est inexacte, Google Translate me laisse avec ces deux phrases qui me réjouissent. C'est-à-dire dans la ceinture, ceinture en cuir, la taille, ceinture en cuir, dessin, ma vie, citizen. Bonjour poupée, tu es et tu me rends fou. Je suis fou de toi, tout fou. En relisant cette lettre aussi, je me suis rappelée de ce que je n'avais pas écrit à mes amis. Mes intuitions sur le fait que Nota puisse être Gwyn. C'est souvent ça quand je rencontre des Gwyn en voyage. On se sent, on se renifle, on se sait et pourtant on se cantonne à cette éternelle pudeur. On ne décalote aucun désir. Comme quand j'ai rencontré Amaryllis à Prague, comme quand j'ai croisé la Suisse au vélo électrique. Ou comme l'allemande dont je parle dans la fin de cette lettre. Voici la suite du périple grec.
Thank you.
Je me dirige vers les performances de la galerie Mémé. Après une longue heure d'hésitation à si oui ou non je vais parler à cette fille allemande qui a l'air cool, j'entends parler français. Ce sont tous les étudiants en Erasmus aux Beaux-Arts d'Athènes. « Ah, mais t'es aux Arts Déco de Strasbourg, mais tu connais Alcide Cayol ?» me dit le type de Angoulême. « Ah, mais tu connais une fille qui s'appelle Garance ?» me dit le mec de Mordeaux. Barbara vient de la Cambre et Clémence des Beaux-Arts de Milan. Ils sont tous partants pour m'accueillir, si bien que je sais plus quel colloque choisir. Le mec de Bordeaux, il a l'air drôle. J'ose pas trop rester à côté de lui parce qu'il a un t-shirt avec le drapeau de la Crèce dessus. Et moi, franchement, si je croise un Français avec un drapeau de la France sur son tee, je m'approche pas de lui. Mais il est conscient qu'il a l'air d'un facho et ça le fait marrer. C'est un espèce d'énergumène en furie, même si je me méfie des Mexis aux grandes gueules. Il bosse sur la cuisine méditerranéenne, sur Alexandre le Grand qui fut selon lui le premier à faire un livre de recettes et les grandes orgies grecques. Avant de partir, il a fait plein de pâtés qu'il conserve dans la cave de l'école. Il dit que demain, il y a un vernissage dans la galerie de Los Angeles Breeders, qu'avec Clémence ils sont rentrés et l'artiste californienne était assise par terre, la tête vers le ciel, dans une robe jaune poussin, en train de chercher un titre pour son solo show. C'est dans le quartier des maisons closes, alors souvent on la prend pour une travailleuse du sexe, elle raconte. Vous allez voir, il y a un rooftop avec des miroirs en forme de Mickey et un filet tendu au milieu, il raconte, sur X. On part prendre un verre dans un bar avec un skatepark à l'intérieur.
Il y a un centre ici, je ne savais pas, en plus c'est une galerie
Et à partir du moment où j'ai rencontré ces artistes français, j'ai vécu le séjour parfait de la française branchée dans la ville du Sud gentrifiée. Pour m'en extraire le lendemain, j'ai pris un bus pour une plage nudiste à 30 minutes d'Athènes que m'avait conseillé Nota. Je suis arrivée devant une mer limpide et turquoise au milieu d'un groupe de 20 Russes à poil. J'ai plongé et mes poils pubiens se sont trempés d'une eau qui n'était même pas froide. C'est doux mais aussi c'est douloureux parce que c'est là où nous devions nous rejoindre avec la Gradiva. Je pars faire une vidéo dans les roches. Nue, avec une perruque rouge, je gonfle un gros ventre devant la mer. C'est la première fois que je fais un truc comme ça, dans lequel je me mets en scène en réutilisant des codes qui rappellent quand même vachement l'esthétique militante punk féministe. Mais c'est que pour mardi, j'ai une présentation sur la dette envers le travail productif et reproductif des femmes, et pour ça je lis Caliban et la sorcière de Silvia Federici et Una lectura feminista de la deuda de Lucia Caballero y Veronica Arago. Vraiment, je ne comprends pas pourquoi Caliban et la sorcière n'est pas au programme du bac. Il me retourne le crâne. Il me pousse à l'action, à la digestion, à accoucher d'un truc pas clair, mais radical.
Ce livre m'interpelle autant, c'est parce qu'il raconte une histoire du Moyen-Âge qui jusqu'ici ne m'avait jamais effleuré les oreilles. Quand je me plaignais adolescente, ma mère me répondait souvent « Oh, ça va, t'aurais pu naître au Moyen-Âge. » Nous avons une image du Moyen-Âge d'un temps où les gens mouraient de maladies horribles, où les pauvres erraient dans la rue où l'on jetait des seaux de merde. Jamais à l'école, on ne nous parlera de ce temps-là comme Sylvia. Parce qu'il a eu l'effet en moi, à 23 ans, de me dire « Ah, autre chose était possible et cela avait l'air plus en adéquation avec nos corps. » Ma mère ne se doutait pas que mes mots étaient justement la conséquence de ce qu'il s'est passé au XIIIe siècle.
La sonnette du lycée sonne. Vous tremblez derrière vos cahiers. J'arrive pour vous donner le cours magistral que votre génération attendait.
Bonjour à toutes et à tous. Asseyez-vous s'il vous plaît. Désolée, je suis un peu en retard. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Est-ce qu'il y a des absents ou des absentes? Lola, c'est tout? Ok, on s'assoit, s'il vous plaît. Un peu de silence. On va commencer. Lina, merci. Alors, vous prenez vos livres à la page 87. Allez, s'il vous plaît, là. Vous vous souvenez que la dernière fois, on a vu que le couronnement du Capet, qui signe le début de la dynastie des Capétiens, ça c'est quel siècle? Oui, Lina, le 10e siècle, donc c'est le début du Moyen-Âge. Et on a vu qu'au Moyen-Âge, la population, elle est divisée en trois groupes. Hein, vous vous souvenez, il y a ceux qui travaillent, donc ça c'est qui? Oui, Saïd, c'est les paysans. Mais on lève la main, s'il te plaît, par contre. Hein. Oui, voilà, et après il y a les seigneurs. Et le clergé, très bien. Alors, aujourd'hui, je vais vous parler d'une historienne du Moyen-Âge qui s'appelle Silvia Federici. Donc ça s'écrit S-I-L-V-I-A, prenez des notes, Federici, F-E-D-E-R-I-C-C-I. Elle a écrit un livre qui s'appelle Caliban et la sorcière. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de ce livre ? Oui, c'est au programme depuis peu de temps. Mais donc, vous pouvez commencer à prendre les notes et vous me dites si je vais trop vite. Hein, mais elle démontre en quoi le capitalisme a été une réponse des seigneurs et des féodaux, en gros des riches au pouvoir, pour contrer les luttes des paysans et paysannes, des artisans, les journaliers qui auraient pu mener à une révolution. Hein, tant l'ébranlement du pouvoir en place en était devenu trop fort. Bon, ça va, je vous dérange pas là, Fentina Ila? Je vous mets plus à côté sinon. Sinon, moi, je vous mets des places attribuées. Merci. Alors, vous prenez votre livre d'histoire. Hein, vous voyez à la page 87, on en est au premier paragraphe en haut. Alors, cette historienne, elle revient sur la transition au capitalisme par le prisme des luttes sociales médiévales hein, du Moyen-Âge et notamment celles portées par les femmes. Ça va être très important, on va y revenir. Alors, Federici, elle remet en question cette croyance qui a été très présente jusque dans les années 2020 que le capitalisme fut une évolution, en gros, du féodalisme vers le capitalisme. Et elle, non, elle écrit que le capitalisme fut la contre-révolution qui réduisit à néant les possibilités ouvertes par la lutte antiféodale. Et ça, c'est très important parce que c'est au cours de la lutte antiféodale que nous trouvons des traces de la première occurrence connue dans l'histoire européenne d'un mouvement populaire de femmes s'opposant à l'ordre établi et qui participe de l'élaboration de modèles de vie communautaire alternatifs. Vraiment, c'est passionnant. On va faire aujourd'hui le chapitre qui commence page 87. Soyez bien attentifs, s'il vous plaît. C'est vraiment sur ça que le devoir de la semaine prochaine va porter. Donc, en gros, au tout début du livre, bon, c'est toi, Lucas, qui avais fait l'exposé sur le premier chapitre. Hein, Federici, on avait vu ensemble, tu nous avais expliqué qu'elle détruit l'image que l'on se fait du début du Moyen-Âge, à l'inverse de l'image d'Épinal qui dépeint la société féodale comme un monde figé où chacun acceptait la place qui lui était assignée dans l'ordre social. La représentation que fait apparaître l'étude du manoir féodal, elle est plutôt celle d'une incessante lutte. Une incessante lutte de quoi? Des deux classes, oui. Merci. Alors, aujourd'hui, on va vraiment revenir sur le tout début du Moyen-Âge. Donc au tout début du Moyen-Âge, on rappelle les dates, c'est quoi les siècles? C'est entre le 5e et le 7e, le tout début. Et il se développe en Europe ce qu'on appelle le servage. C'est en réaction à l'effondrement du système esclavagiste sur lequel avait été bâtie l'économie de l'Empire romain. On avait vu les Romains, vous les avez vus les Romains en 5e. Ou en 6e, je sais pas. En 6e, d'accord. En échange du travail qu'ils étaient... Donc, l'aspect le plus important du servage, du point de vue des changements que ça a introduit dans le rapport maître-serviteur, Là, je vous signale que je suis quand même en train de faire un récapitulatif de la dernière séance. Tout ça, c'est censé avoir été vu et intégré. On s'est vu avant-hier quand même. Donc, comment ça se passe, cette fin du système esclavagiste de l'Empire romain? C'est que les propriétaires fonciers ont dû octroyer aux esclaves un lopin de terre et donc le droit de fonder leur propre famille. Afin, si vous voulez, en fait, ça, c'était une manière d'endiguer leur révolte ou leur fuite vers le maquis. Où des communautés de marrons se formaient aux marges de l'Empire. Ça, on y reviendra un peu plus tard. Alors, petit à petit, jusqu'au XIIe siècle, les paysans devaient être synonymes de serfs. L'aspect le plus important du servage, du point de vue des changements qu'il a introduit dans le rapport maître-serviteur, c'est qu'il donnait aux serfs un accès direct aux moyens de leur reproduction. Donc, en échange du travail qu'ils étaient tenus de faire sur la terre des seigneurs, les serfs, ils recevaient une parcelle qu'ils pouvaient utiliser pour assurer leur subsistance et transmettre à leurs enfants comme un véritable héritage, bon, moyennant le paiement d'un droit de succession. Donc en fait, c'est le tout début, enfin, on donne en fait une propriété. Vous voyez comment est en train de s'installer cette forme d'emprise par la possession. Donc cet arrangement, il a fait quoi ? Federici, elle nous explique qu'il a augmenté l'autonomie des serfs et elle fait donc le lien direct avec les révolutions récentes contre la propriété. Je m'explique. Vous levez la main si vous avez des questions. Est-ce que tout va bien pour l'instant ? Je vais vite, mais on peut en... prenez des notes et on y revient à la fin quand vous avez des questions. D'accord ? Alors, l'expérience d'autonomie dont bénéficient les paysans du fait de l'accès direct à la terre, ça recelait aussi un potentiel politique et idéologique. C'est-à-dire que les serfs en vinrent peu à peu à considérer la terre qu'ils occupaient comme la leur. Et à... Oui ? Vous voulez fermer la fenêtre ? Allez-y. Oui, c'est vrai qu'il fait froid.
Alors, gardez votre conscience, bande de brutes, je suis une machine libre, sans rien d'autre que ma folie. Ah mais sinon je peux t'envoyer des screens sur par mail.
Ouais, mais je veux bien que tu me le lises avec la musique.
Mais parce que si toi tu n'as pas accès, il y a bien d'autres qui ont accès, c'est bon.
Ok.
Ouais, tous mes amis qui étaient déjà là, qui m'ont lu, ils ont accès.
Ok,
c'est bon. Ok. Gardez votre conscience, bande de brutes, je suis une machine libre, sans irène d'autre que ma folie pour dire le monde qui s'étuale et pour vous cracher sur la gueule des HSBC quand j'aurai assez d'argent pour passer off les marionnettes du Capitole. Je répète, vous travaillez pour votre merde. Je répète, je suis une grosse conne qui sert à rien dans un monde de merde. Une poète publique à la rue qui suce des bits, qui pique pour s'équiper. Avec un cas. Équipe fail. Pika, pas, ma, phase. Non, ça va pas, lol. Et toi, la ride. Dans la mesure... Ah, là, c'est en commentaire. Dans la mesure où je suis une bitch non précise, mes propos n'ont rien d'offensant. Prenez des screens. Quand est-ce que je vais me faire sauter mon compte, à votre avis? Faut garder des traces pour la postérité de la vie politique. Et pour que ta mère soit contente de toi quand tu gagnes bien le monde, pour le dire mieux. Niveau santé, tout va mieux. J'avais les couilles violettes et elles ont tiré au dos de champagne, lol. Et après, j'ai mis un compte Instagram, un post Instagram, qui m'a en fait... Genre, j'ai juste... Post Instagram et ok, j'étais en mode ok, du coup, faut que je parle à tout le monde et j'ai fait un appel sur tous les réseaux sociaux en mode genre écoutez-moi. Tous les stories et tout sur Insta quoi. Tu l'as lu ou pas?
Les trucs sur Insta?
Le post.
Sur Insta?
Ouais.
Tes stories?
Ouais.
Mais t'as vu, je les ai même ripostes.
Ah ouais, tu l'as riposte?
Ouais, j'ai riposte deux des stories.
Ah, tu les as trop bien.
Mais oui.
Tu l'avais pas vu, non? Tu l'as fait quand?
Je l'ai fait le jour où tu les as mis. J'ai mis celle avec les beignets, là, avec l'écriture violette sur des beignets marrons.
Ok, non, j'ai oublié.
Et celle de...
Et celle
de Ursula Le Guin.
Ok.
Mais j'ai trop kiffé, j'étais en mode « You're back, bitch, you're back ».
Bah ouais. Mais tu sais pourquoi? Parce que Alice, elle m'a expliqué comment on jouait sur mon portable. Avant j'avais sur mon téléphone, mais depuis que j'arrivais plus à faire sur mon téléphone. Attends, est-ce que j'ai de la batterie? J'ai plus de batterie, je vais en rapprocher.
Mais tu penses que ton compte il a été supprimé parce que tu dis que tu vas mourir ?
Non, parce que j'ai peur que je respecte pas les règles de la communauté parce que je suis une pute, tu vois. Donc du coup, après, je suis pourquoi c'est la pute.
Ouais.
Enfin, pourquoi pute, c'est pas une insulte en fait.
Ouais.
Parce qu'ils disaient les règles, vous entraînez les règles. Donc ils ont supprimé certains posts. Dans ces bandes de putes, ils l'ont supprimé d'ailleurs, je crois.
Ok. Bah ça, les réseaux, que ce soit Facebook comme Insta, tu peux pas mettre des trucs.
Mais du coup, j'ai fait une story sur Instagram.
Ouais, mais si c'est un screenshot, ils reconnaissent pas normalement.
Ouais, mais sur la dernière, ma story derrière Instagram, c'est votre suite. Il y a 232 personnes.
Yes.
Grosse pute et danse. Il y a 230 abonnés déjà. Alors. Après, j'ai mis une autre musique hier sur Snowlight, qu'importe qui m'aide pour qu'il me prenne. Après, j'ai dit coucou, est-ce que vous pouvez penser que la culture peut me protéger de la police? J'ai peur. Vous pouvez me rassurer en appelant la police? Je suis folle. J'entends des voix dans ma tête. C'est juste ma voix qui me dit ce que je dois écrire là. Je suis folle et je vous aime. Car je vais l'amour. Je suis conne et t'étonne. Parce que je suis une femme trans dégueulasse. Non, pas du tout. Arrête de retourner le climat de la violence contre toi. Je suis une belle femme. Lol. Je m'en fous d'être une belle femme. Je veux tous les baiser et qu'ils me baissent. Je ne rêve que de ça. Parce que c'est des commentaires, ça, du coup. Parce que si tout est le monde faisait l'amour, ça résolutionnerait tous les deux. Je suis trop dark et gothique. Je sais même plus ce que je suis. Je suis rien. Je suis votre ami. Peut-être, mais vous m'appelez plus. Vous ne me croyez pas quand je vous dis qu'un autre fou de vos amis m'a couru après dans la rue. Ça, c'est Léo, tu sais. Que j'ai trouvé un PD que j'avais embrassé dans une soirée la veille sur le dancefloor pour me protéger de lui, mais qu'il s'est enfui parce qu'il avait peur. Heureusement, arrivé à la plaine, j'ai trouvé un refuge. C'était des boots que j'avais déjà vus. Elle écoutait de la musique en cercle. Je l'ai vu tracer sa route devant. Après, elle m'a traité de pute sur Insta. Ça pour un demi de pfiou. Je sais même pas pourquoi je vous raconte ça. C'est la seule fois où je me suis agressée par un ami. Ah non, il y en a eu d'autres. Il s'est jamais excusé vraiment d'ailleurs. Je suis censée être gentille avec lui. Sinon, sa famille ne va plus me parler. Parce que j'ai embrassé sa copine. Bref, la vie, c'est la cour de recès de la maternelle. À tout jamais. Sauf qu'après, tu suces des kalachnikovs pour comprendre que t'es juste née sur la mauvaise planète. Allô, le système solaire, il y a quelqu'un? Je me sens pas à l'aise, je sais pas. Peut-être que des AS pourraient me sauver. On partirait dans un vaisseau dans ces 13 molles qui puent le mal de ventre et la merde. J'en ai marre de devoir faire caca et travailler. C'est ça la vie? Ok, ouais, ça marche. Merci, bonne journée, au revoir. Ok. C'est vraiment chez vous, bordel, JP, de la vieille bouffe de merde du restaurant universitaire, Burk. Avec tous les précaires qui font la gueule parce que tout le monde fait la gueule. Non, je sais pas si je dis ça parce que j'ai l'impression que j'arriverai jamais à rentrer en contact avec les gens. Leur dire d'arrêter de m'appeler monsieur parce que je suis pas spécialement malade d'être qui je suis d'exister, etc. Ta gueule. Lol, ta gueule, je vais aller me branler pour me calmer. Facebook aime mon éditeur, j'attends la gloire comme Welbeck. Vous avez intérêt à m'écouter et à m'écouter quand la galaxie sera morte. Bande 2, entre parenthèses. Et en fait, je ne sais pas si j'écris le mot. Non, j'ai pas le droit d'ici. Et après, c'est des grosses images comme ça.
Oui.
Avec les. Lol, on m'a dit, je vais boire un gaz demain avec ma pote de théâtre. Grave la flemme. Putain, la flemme. C'est comme femme, tu vois. Genre, tu rajoutes un L. C'est genre, t'es femme et t'as pris du L, quoi. Flemme. À tous mes vrais amis, on m'a dit, à tous mes vrais amis qui me connaissent depuis si longtemps, oui, je suis folle et je vais me jeter par la fenêtre. Non, non, c'est pas vrai, je vais pas bien du tout et j'en ai marre de cette vie de merde. Mais c'est la merde qui est vide. Ah, à tous mes vrais amis, S, au pluriel, vous pouvez venir me voir, Lola Lourdes. Oh, t'as vu avec les antidépresseurs, lol, je me lâche sur les réseaux. Et là, il y a moi qui a aimé avec la Messi Panda Bravo qui. Alors, pour la petite chouchotte que je suis, je crête envie d'être arrêté de mourir. Je crois que les antidépresseurs ça marche la vraie. À part ça, c'est quoi mon statut, bande de pute? Allez, réagis, est-ce que je suis une pute ou pour être public, sale merde? PS, la Serena Lazorco est une grosse pute, pile la fort les enchères, bande de pute, jeu. C'est la Serena Lazorco, j'aime. Coucou, je suis folle. Après, j'ai une vidéo. Pourriez-vous m'aider? J'ai des problèmes. Quand ta mère se fait insulter, la police municipale intervient dans un conflit de voisinage. J'ai juste tapé ta mère la pute sur YouTube. Ta mère la pute, 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 pute. Reportage de merde, lol. Va te faire foutre. Je me suis fait violer. Hashtag RFG MeToo. Par la télé, et mon papa et ma maman. Et mon père et ma mère m'ont violé, j'en suis persuadée. J'ai même l'impression que mon père a violé ma mère pour m'enfanter. Je ne comprends pas pourquoi ils m'ont appelé comme ça suite à un viol. Aidez-moi dans ma détresse, bande de merde, qui travaille à rien foutre pour gagner de l'argent, que vous mangez pour chier de la merde, que vous ne mangez même pas. Quand j'ai eu le Covid, j'ai eu la force de faire une balade, je suis passé à côté. Là, c'est écrit en majuscule, du coup, à la place des virgules, il y a des 4, tu vois. Oui. Et à la place des E majuscules, il y a des 2.
Ok.
Parce que, genre, j'écris avec le. est à côté de la station d'épuration et j'ai trouvé que c'était le meilleur moment de ma balade. Est-ce que c'est parce que je suis une merde et que du coup je me sens proche de ma famille quand je passe à côté de la station? Est-ce que vous pensez que Serena, la joueur Cover, va se faire sauter son compte parce qu'elle est angoissée d'appeler ses amis au téléphone tous les jours alors qu'elle a juste envie de faire des grosses vues pour gagner des thunes? Après, genre, ma photo de profil, c'est un Lugia qui marche sur le sol comme ça. C'est un Pokémon. Après, il y a... Ouais. Après, il y a l'image de meuf déguisée en Adiane. Mm-hmm. J'ai trouvé ça que tu puisses pas voir mon mur, ouais. Et
non, après, il y a
a three-step process for living, promises of significant otherness. Alors, 1. Toxicity. You live in an alien landscape. 2. Semiosis. You are already alien. 3. Subjectivity. Do you want to be more alien in an increasingly queer world? C'est un truc que j'ai trouvé sur une archive féministe. Et là, j'ai... C'est des serveurs féministes, du coup. On peut quitter Facebook, quoi. C'est cool. Putain, j'ai un astre. À cause du fromage.
Federici décrit les communautés d'hérétiques et ça me fait bander. On trouve en l'instant tous les misérables de la société. Les prostituées, les prêtres des fantômes, les sodomites, paysans et travailleuses, détruisant et pillant les maisons des riches. Végétarianisme, vagabondage, rituel, orgiaque, aversion pour la guerre, condamnation de la peine capitale, rejet du mariage et de la procréation, pour ne pas faire entrer de nouveaux esclaves dans ce pays de tribulation. Certaines hérétiques prêchaient à l'acte sexuel une valeur mystique, meilleur moyen de parvenir à un état d'innocent. Les femmes avaient un statut élevé dans ces sectes qui ne maîtrisaient ni la vie, ni le corps. Femmes en habit masculin, luttant aux côtés des hommes. Femmes savantes et dotées de potions contraceptives. À la fin du 14e siècle, dans une période de grave crise démographique et de pénurie de main-d'œuvre, sur la reproduction semble à menacer la stabilité économique et sociale, la figure de l'hérétique devint de plus en plus celle d'une femme et la principale cible de la persécution contre les hérétiques devint la sorcière. Expulser les femmes de chaque moment de la liturgie et de l'administration tenter d'usurper les pouvoirs magiques d'enfantement par l'emploi d'un vêtement féminin et faire de la sexualité un objet de honte. Tels furent les moyens par lesquels une caste patriarcale tenta de briser le pouvoir des femmes et l'attirance érotique. C'est la scission entre le corps et l'esprit. Erotica devient vis laborativa.
Negativo, 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 negativo.
Les intellectuels, ils s'intéressent plus au monde moderne et ils disent rien. Enfin, le silence des intellectuels, ça c'est pas terminé. Les intellectuels, c'est nous. Et on nous considère pas comme des intellectuels. Personne n'a dit que j'étais un intellectuel. Les universités, ça fabrique du ronron. C'est vraiment un avaté pour chat. Et il y a zéro parole sur le réel. Bon, voilà, et ça dure depuis 1980, donc... 23 ans, c'est une époque, hein. C'est intéressant. C'est la terreur. Il y a zéro parole libre. Ou des fois, il y en a, ça fait des espèces d'éclats. Genre, tiens, Houellebecq, tiens, machin. Et c'est vrai que des écrivains, il n'y a à peu près que Kikuin. Tout est souterrain. La pensée souterraine, et c'est vrai, c'est un peu un truc, c'est un peu la guérilla, c'est un peu une espèce de... Ouais. Qui dit ? Moi, je trouve pas beaucoup. Moi, je dis un peu.
Les Chinois, ils ont interdit le hashish parce que ça fait prospérer les fantômes. Et c'est vrai, les drogues, elles mettent en contact avec une réalité qui est proscrite par la civilisation parce qu'elle fait perdre trop de temps, quoi. Parce qu'elle rend trop fou. C'est... Ben, je sais pas, on a des perceptions qui sont fatigantes, quoi.
Comme.
Ben. Comme moi j'en ai, quoi. Mais pas tout le temps, il y a des moments où c'est normal. La normalité, ça a l'air d'être une espèce de cadre. C'est comme fonctionner dans une espèce de spectre radio où il y aurait certaines fréquences qui seraient excessives et qui feraient que les gens se friraient, quoi. Il y aurait de la friture, vous voyez ? Ou qui seraient trop calmes. Et il y aurait une espèce de spectre où il y aurait des choses normales qui se passeraient, quoi. Donc ça, c'est une bonne métaphore. On essaie d'enlever les trucs qui vont pas des deux côtés. Trop calme ou trop excité. Moi, je perçois des trucs violents, des trucs d'agression et de possession et de succion, tout ce qu'on décrit comme étant les vampires, les ghouls, les machins, les fantômes. C'est comme les trucs chinois, l'histoire de fantômes chinois. Toute cette vague asiatique, c'est parce qu'on a envie qu'on nous parle d'un truc qui existe, qui est ça, le substrat inconscient violent de l'homme. Et ouais, il y a des fantômes en permanence, très attentant, c'est vrai. On peut, tout au Moyen-Âge, on était entouré par l'invisible, il y avait tout le temps des trucs horribles, on vivait là-dedans. Et après, ça a été interdit par l'état productif qui veut qu'on soit tout le temps dans une capacité de produire, une espèce de calme où on est hors fantôme, hors zoo. On se rend bien compte que le rationalisme en même temps est foutu et est irremplaçable au sens où si on sort du rationalisme, ben c'est trop violent et on perd son temps. On perd un temps qui pourrait être consacré à la production et qui va être consacré à la perception de trucs qu'on peut ranger sous la folie. Moi, je pense qu'on les perçoit, ces trucs-là, quand on est petit enfant. Quand on a peur du noir et qu'on voit des trucs, on voit effectivement des trucs. Il y a des trucs. C'est pas qu'il n'y a pas de trucs. Il y a des trucs. On vous fait croire qu'il n'y a pas de trucs pour qu'on soit concentré sur la bande passante où on s'abstrait des trucs bizarres et on filtre et puis on s'intéresse qu'à la matérialité visible. Si on écoutait les vrais bouddhistes, ils prennent en compte la sorcellerie. Les trucs tibétains, c'est bourré de fantômes. Tous les trucs indiens, ils savent qu'il y a d'autres réalités. C'est parce qu'on a une lecture occidentale du bouddhisme. On rend tout ça philosophique. On blanchit le truc. Mais ça n'a un sens pertinent par rapport au réel que si c'est confronté non pas avec la philosophie post-chrétienne, mais avec la description du réel ou la clinique pré-chrétienne. Qui inclut la sorcellerie, enfin ce qu'on appelle la sorcellerie depuis le Christ. Avant on appelait ça la magie ou un certain nombre de savoir. C'est du savoir. Faut juste que la société blanche accepte de prendre en compte l'acquis des autres sociétés comme d'autres couleurs de peau. Je crois que c'est vrai, hein, c'est un peu lourd, ça fait un peu cucu, mais si on prend en compte ce qu'est le savoir d'autres sociétés, noires ou jaunes, indiennes ou je sais pas quoi, ce qu'on a plus ou moins commencé à faire dans les années 70, ben, on va s'intéresser, quoi. Ou ce qu'on appelle le paranormal. Le paranormal, c'est le para-blanc, hein. C'est le para-blanc rationaliste post-17e siècle. Voilà, bravo à qu'il a dit avant moi. Hein. Au Moyen-Âge, les Blancs, ils croyaient à d'autres choses. Après, c'est vrai que ce serait bien si on explique tout ça avec la science blanche, ce sera rigolo. Sauf que, est-ce qu'on peut? Je sais pas. Probablement dans une description rationnelle et scientifique du réel, on va dire que les fantômes, c'est des ondes. Des ondes d'une fréquence machin, quoi. Voilà. Moi, je parle de ghouls. Parce que je vois les ghouls. Faut être sorcier. Dans tous les trucs sur les savoirs occultes ou je sais pas quoi, ils le disent que être sorcier c'est dangereux, que ça se paye et qu'on peut mourir. Et ben ouais, ça se paye, on peut mourir. Parce que on est en proie à des choses autres que le truc tranquille. Faut être dans un état crépusculaire.
Like story time part 6. So I accidentally left out a vital piece of information from the last story times, and it's going to be super important at the end of the story. So after the original time, me and Lulu went to go see the original psychic, the one from the coffee shop. It just so happened I ended up talking to the guy he said that he don't know about. While we was together, he developed this ability. I hope you don't see this. This is gonna sound so crazy, but when he would smoke, he would start having visions where he would see things while fully awake. This nigga was that so Raven, but instead of that so Raven, it was that so his name. Cause when I tell you, he would dead be like, I just had a vision. The craziest part for me was that the type of vision it was would be affected by the type of music that was on. Like for example, he said he was outside his house in his car listening to Lil Durk smoking. He told me as he was listening, he seen dark shadows above the front door to his home. Just like imagine kind of like a black smoke, I guess. He said the music started to sound eerie, so he changed it. And when he changed it, the shadows went poof. In another vision he had, he was his friend, like walking in the world from his friend's perspective as him. He also had a vision about us, but it really ended up being about me. He said he seen us in an all-white apartment the next year. And the next year, I was in the all-white apartment. But we didn't talk, so. But yeah, the guy developed this psychic-like ability, and I couldn't wrap my head around it. So I just tried to rationalize it, like, oh, weed must be a psychedelic. Realize that it was a sexually transmitted demon, a spirit of divination, if you will, and it was activated by the weed. Activated. A lot of ancient spiritual practices use weed to connect to the spiritual realm, and they still do to this day.
La bipolarité dans d'autres sociétés, à d'autres époques, ça devait être les visions, tu vois, genre des dons de prémonition.
Quoi ? Des quoi ?
Les gens qui avaient des dons de prémonition.
Non.
Mais si !
Non.
Tu vois bien, Tine, il parle avec des gens qui n'existent pas. Moi, je fais des rêves.
Non.
Mais c'est parce que t'es devenue occidentale.
Non, c'est pas vrai.
Mais si, c'est vrai.
Les gens qui ont des visions,
ouais,
ce sont des médiums. Pareil que Angès. Et quand j'habitais en France, j'avais un magnétiseur, je me faisais soigner. Et sa femme, elle était magnétiseuse aussi. Mais elle a des visions pareilles qu'Angès. Alors, elle n'ose plus conduire, c'est pour ça qu'Angès, elle ne conduit pas. La femme du magnétiseur. Je l'ai rencontrée dans le couloir. J'ai dit, mais vous revenez de quelque part. Elle me dit, oh, j'ai très peur, j'étais en train de conduire. Et tout d'un coup, je voyais une discothèque brûlée avec plein de gens morts.
Ouais.
Parce que je voyais sur sa tête qu'elle était effarée, tu vois. Je lui ai demandé, qu'est-ce qui vous arrive? Elle m'a raconté ça. Et tu sais qu'est-ce qui se passe après?
La discothèque, elle brûle.
2 jours après. Ce sont des visions, des médiums. C'est pas des gens, c'est pas des bipolaires. Les médiums, c'est différent. Ils voient des choses. Ils ont des visions.
Pourquoi mes visions, elles sont expliquées par des psychologues comme...
Explique-moi tes visions, dis-moi quelle vision t'as eu.
Mais j'ai des rêves prémonitoires, genre je rêve d'un truc et après ça arrive.
Et moi aussi j'ai eu des rêves prémonitoires.
Voilà.
Mais je suis pas bipolaire. Hein.
C'est ce que je te dis, c'est que on me dit ça, mais moi je pense que c'est juste une hypersensibilité avec des...
Voilà, hypersensibilité, c'est comme moi je suis hypersensible.
Oui, mais
c'est pas la bipolarité.
Oui, mais notre société... Comme elle ne nous donne pas les clés et les outils pour accueillir,
Mais c'est une société cartésienne. Il faut qu'elle trouve des raisons à tout. Tu comprends?
Oui, mais.
Il y a des choses qui n'ont pas besoin de raison.
Oui, mais le problème, c'est que du coup, c'est pathologisé et ça devient une souffrance.
Oh, mais. T'as quand même pas réfléchi. C'est tout. Hein.
Tu crois que je peux, genre, me dire, oh, tiens, aujourd'hui. Je vais pas avoir de vision morbide.
T'es obsédée par les visions, tu dis, je vais avoir une vision.
Mais non, pas du tout. J'étais en dépression et j'avais des flashs morbides.
Ah, les gens dépressifs, ils ont des flashs.
Bah,
mais c'est pas la bipolarité.
Non, mais j'ai des délires paranoïaques. Genre,
ouais, les dépressifs, ils sont paranoïaques. Mais ils sont pas bipolaires, hein.
Mais
papy, il est paranoïaque, mais il n'est pas dépressif.
Il n'avait pas de vision, papy.
Quoi, il n'a pas de vision non plus.
Il n'avait pas de flash.
Non.
Bon.
C'est parce que. Ah non. Surtout les Français. Ils ont des cartes. Ils raisonnent toujours d'après les méthodes. Le raisonnement des méthodes. On dit que les Français sont des cartésiens.
Comment je fais si je suis dans une société où personne m'a dit comment appréhender ça?
Chérie, t'as 25 ans, bon. Essaye de réfléchir, d'analyser, t'as pas besoin d'aide des autres, t'es comme un adulte.
Mais ça n'a rien à voir, c'est des moments où...
Bon, tu m'appelles, chaque fois que t'as des trucs comme ça, je t'explique, j'essaye d'analyser avec toi, tu comprends? T'as pas besoin d'étrangers qui te donnent des sous pour le faire.
Ça fait gratuit.
Bon, mais t'as c'est pas gros. Besoin. Ce sont des manipulateurs. Moi, je te manipule pas.
Ouais.
Et puis en plus, tu vois, moi j'ai 2 cultures. Trois cultures. Culture vietnamienne, culture bouddhiste. J'ai étudié beaucoup la culture française et européenne. J'analyse avec la somme de mes cultures, j'analyse. Tu comprends? Alors toi, si t'arrives d'avoir des trucs comme ça, appelle-moi, explique-moi, et on essaiera d'analyser ensemble. Faut pas te fixer sur ta bipolarité.
Mais ton tontine, il est bipolaire.
Ouais, mais lui, il est malade, réellement.
Oui, mais toujours. Parce que il a eu des... Enfin,
Il est malade parce qu'il n'a pas eu la chance de pouvoir avoir une vie saine.
Voilà, il n'a pas été élevé par la famille, mais déjà quand il était petit, c'était pareil. Tu sais pourquoi ?
Pourquoi ?
Ce sont les conséquences d'avoir eu une mère qui avait des pressions postpartum.
Oui, mais
heureusement que j'ai un fort caractère, j'ai surmonté ça. Mais Timmy, il n'a pas surmonté. Ouais, elle n'a pas surmonté. Mm. Ma soeur en Australie, qui est une surdouée comme gamin, elle a surmonté. Et elle a protégé la petite soeur. Mais tous les teens, ce sont des faibles. Tu sais, dans ma famille, les garçons, ils sont beaucoup plus faibles que dans les filles. D'ailleurs, ils sont presque des poux. T'as vu, Timmy, tout, on dirait. Il est horrible. Timmy, il est moche comme tout.
Mais parce que si on leur dit qu'ils sont moches, ils vont être...
Non, tu le vois physiquement, tu vois qu'ils sont moches.
Mais parce
hier, t'as vu une Vietnamienne, hier, et t'as vu les soupirants de la Tata Wang. Quand ils étaient jeunes, comme ils étaient beaux, les Vietnamiens.
Mais ta mère, t'as toujours dit qu'elle était maniaco-dépressive, et ça, c'est la bipolarité, ta mère.
Non, elle n'était pas maniaco-dépressive. Elle a eu une dépression postpartum qui à chaque accouchement, sauf après la mienne. Et elle a accouché ma soeur 18 mois après moi, et à partir de la Tata Wang, à chaque enfant, et à l'époque, il n'y avait pas de contrôle de naissance. Chaque fois qu'elle était guérie, hop, le grand-père lui faisait un enfant. Et le grand-père, il avait beaucoup de mérite, il n'a jamais trompé ma mère, malgré sa maladie, tu vois. Il a toujours été fidèle.
Ouais. Non, mais le problème de la forme de truc que j'ai, c'est que les moments où je commence à être en eau vaseuse,
ouais.
C'est des moments où les membres les plus proches de moi,
ouais.
je leur fais plus confiance, je les reconnais plus, et j'ai l'impression
qu'ils
me veulent du mal, donc je vais pas t'appeler quand ça m'arrive.
Si tu m'appelles, tu m'expliques
mais
tout.
Mais c'est un état dans lequel je
ne
peux pas.
Je ne te veux jamais du mal. Je ne te veux jamais
mais
du mal.
Mais ce n'est pas rationnel, Manu. Dans ces moments-là, je ne suis pas rationnelle.
Bon, alors, si dans ces moments-là, tu n'es pas rationnelle, pourquoi tu fais appel aux autres et pas à quelqu'un de ta famille?
Mais je fais pas appel aux autres dans ces moments-là.
Et qu'est-ce que tu fais?
Je
tu restes
non.
Débrimée toute seule.
Oui.
Bof, voilà.
C'est le... Mais non, mais
tu sais, pour soigner.
Et les gens qui sont physiquement autour de moi voient que je suis pas bien. Mais c'est à ce moment-là qu'on essaye de
désamorcer. Et toi, tu te rends compte que.
Oui.
Bon, quand tu te rends compte qu'ils voient que t'es pas bien, tu m'appelles. D'accord ?
Oui.
D'accord ?
Oui, oui.
Bon. Comme moi, je suis loin de toi, je peux pas voir si tu vas bien ou si tu vas pas bien. Alors, si tu te rends compte que tu vas pas bien, tu m'appelles et tu m'expliques tes problèmes. D'accord ? Tu sais, il n'y a rien de... Et qu'est-ce qu'ils font les psys et quand les gens ils vont s'allonger sur leur divan, là, les freudiens, les canards...
Freud et Lacan, c'est de la merde.
Ça. Ouais, bon, attends, c'est de la merde, mais les psys, ils font plein d'argent parce que les gens, ils viennent expliquer leurs problèmes.
Je te dis que c'est gratuit, le truc qu'elle me fait.
Ouais,
c'est
mais
c'est
gratuit.
C'est le truc de Macron.
Oui. Et qu'est-ce qu'il a payé? C'est le gouvernement, c'est les impôts qu'il a payé.
C'est le minimum vu comment il nous traite.
Dans la vie, surtout, on est dans une société capitaliste, même dans les sociétés communistes, rien n'est gratuit. Dis-toi ça bien dans la tête. C'est gratuit pour toi, mais la psy, il faut bien qu'elle gagne sa vie. Qui la paye? Le gouvernement. La paye avec quoi? Avec les impôts de tous les citoyens du pays, c'est-à-dire tous les contribuables qui payent ta psy. Donc, ce n'est pas gratuit. Tu comprends? Il faut aller à la source, il faut analyser, chérie. Tu comprends, chérie? Il faut toujours aller à la source.
Oui,
pour
mais
comprendre...
pourquoi tu veux me dire ça? Pour me culpabiliser que c'est
je
pas moi qui paye?
Je ne te culpabilise pas.
Non, mais alors, c'est quoi au final?
Au final, tu me dis... Quand les gens autour de toi voient que tu n'es pas bien, c'est comme ça que tu te rends compte que tu n'es pas bien. Alors quand tu te rends compte que tu ne vas pas bien, tu m'appelles et puis on discute ensemble. Aujourd'hui, on discute ensemble, ça t'éclaircit pas mal de choses, j'espère. Hein? Non, pas trop. T'es pas convaincu.
Mais non, mais... Je sais pas.
Bon, mais tu vas réfléchir et tu verras. Hein?
Ouais.
Parce qu'en ce moment, t'as pas de cours, tu travailles pas, ni rien. Tu suis pas des cours, là, en ce moment, comme l'autre fois. La dernière fois quand t'es venue.
Mais c'était pas des cours, c'était de la danse.
C'était quoi?
C'était de la danse.
Ouais, et tu suis encore la danse? T'as fini?
Je fais le yoga.
Sur internet?
Non.
En physique, en cours physique?
Oui.
Pleure pas, chérie! Écoute! Pleure pas! Je t'aime, j'essaie de t'aider! Comme ça, j'essaie de résoudre tes problèmes! Je t'aime, je veux t'aider. Tu sais que ton problème, c'est quoi? T'es hypersensible.
Mais oui, je
c'est
sais.
Ça. T'as une hypersensibilité.
Mais ça m'empêche de faire plein de trucs.
Ça t'empêche de faire quoi?
Bah, plein de choses.
Ah, mais écoute, il faut se faire une raison. Il faut se faire une raison et c'est tout, chérie. Hein? Qu'est-ce que tu veux faire? Qu'est-ce que tu veux faire comme chose?
Je sais pas.
Tu sais, il faut... Regarde, moi, maintenant, je suis handicapée. Avec l'âge, il y a plein de choses que je ne veux pas faire. Alors, je me fais une raison. Je prends mon temps, calmement, et je décale ce que je ne peux pas faire aujourd'hui, je fais demain. Comment?
Oui.
Si je veux faire tout ce que je veux faire, je ne fais pas tout de suite. Tu te rappelles quand t'es petit? Tu veux faire tout de suite. Et tu t'es énervé, tu piquais les crises. Tu te rappelles? Et moi je t'avais dit, non, on laisse et on se calme. Calme et la méthode c'est la réflexion. Toi, comme tu es surdouée, à cet âge-là, 3 ans, 3 ans, 4 ans, tu avais compris ce que je t'expliquais. Mais comme ça fait 20 ans que tu m'as quitté, tu as oublié ce que je t'avais enseigné. C'est pareil que l'écriture, tu te rappelles, tu avais une écriture parfaite hein, que je t'ai apprise, et maintenant tu écris beaucoup moins bien. Grâce à la culture bouddhiste, tout est relatif dans la vie. Rien n'est éternel. Et les gens qui ont de la culture bouddhiste, ils sont beaucoup plus calmes, beaucoup plus relax que la culture chrétienne, la culture européenne, tout de suite, la culture matérialiste, tu vois. Les bouddhistes ne sont pas matérialistes, les vrais bouddhistes, l'essence même, tu vois. Tout est relatif.
Mais oui, mais notre société, elle n'est pas bouddhiste.
Comment?
La société, elle n'est pas bouddhiste. Elle...
Oui, parce qu'on vit en Europe, mais il y a quand même pas mal de... En France, il y a des temples bouddhistes, mais surtout, normalement, c'est le bouddhisme indien, qui est mieux que le bouddhisme tibétain, et par exemple, le thaïlandais, ils ont presque du fétichisme, tu vois. Et les Birmans, c'est pareil, ils retrouvent l'or, leur bouddha et tout ça, tu vois. Il y a des déviations. Le bouddhisme est une philosophie, c'est pas une religion. Les gens en font une religion, tu comprends? Ils instaurent des monastères, des moines et tout ça. Et normalement, c'est une philosophie. C'est pas une religion. Et le bouddhisme n'est jamais intégré. Sauf les déviations, par exemple les Khmers rouges, les Khmers, c'est une civilisation. civilisation d'abord hindouiste et après c'est devenu bouddhiste. Mais les Khmer Rouges, ce sont les communistes purs et durs, ils ont voulu instaurer une dictature et tuer tout le monde, la religion et la tâche. Quand tu veux quelque chose, on discute ensemble, tu m'appelles, d'accord?
Oui.
On essaye de raisonner. Déprime pas.
Mais non, mais je déprime pas.
Ça vaut pas la peine de déprimer. Bipolaire. C'est un vrai bipolaire.
Mais il n'y a pas de vrai et de faux bipolaire. Donc il y a des stades.
Confirmez.
Moi j'ai la chance de dormir autant que je veux, de manger bien. Tu vois, j'ai déjà appris à contrer les malaises, les mal-être. Mais tu vois, j'ai mis du temps, toute l'adolescence, je n'étais pas bien. Je faisais des crises d'angoisse.
Ah oui, la crise d'adolescence, tu te rappelles, Anita, je l'ai foutu un peu la maison. Ça, c'est le mien de papy George. Je mets la minuterie dans une heure pour aller chercher le linge. Quand ça saute, je t'appelle, tu en baisses la patiente.